Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, pour cette première table ronde qui, comme il a été dit, est une table ronde qui ouvre les deux jours et qui va poser des éléments, des discussions. Mais peut-être pas tant des définitions, parce que Nathalie Dupont a peut-être présenté effectivement une des questions qui va être posée en termes de fournir des définitions. Il s'agit de poser quelques caractéristiques, mais peut-être que les deux journées effectivement peuvent revenir sur des aspects définitionnels. Une première table ronde donc intitulée Tiers-temps et tiers-lieux, éducation formelle et informelle, pour, comme l'a dit, je me permets de reprendre ses propos, Thierry Piot, en ouverture, pour bien entendre la parole des professionnels et puis avoir aussi un petit temps d'échange. Alors, manifestement, sans être enregistré, donc une parole libre, une parole peut-être off possible hein, pour des questions avant une pause et la conférence qui suivra. Pour animer cette table ronde, Alexandre Kouakou, doctorant sous la direction de Julie Delalande.
Et je vous présente également Anne-Laure Le Guern, chercheure et formatrice à l'USPE. Du temps.
Merci Alexandre. Et pour les intervenants et intervenantes que nous remercions en effet chaleureusement, vous avez à l'écran l'ordre physique réel d'apparition.
Et là, je commence par vous présenter Cécile Leroux. Elle est directrice du service territorial éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse de Caen.
Et non pas Gabriel Prouveur, comme indiqué dans les programmes que vous avez trouvés ou avec vous, ou bien apprendre effectivement sur la table, qui ne pouvait pas être avec nous. Je profite de ce moment pour le remercier chaleureusement, parce qu'il avait commencé les travaux de cette table ronde avec nous. Et puis, Étienne Sanson, qui est enseignant détaché au Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, les CME1. Je ne sais jamais dire le CI. J'avais prévu, hein. C'est un exercice pour moi. Il faudrait que je m'entraîne à dire 50 fois CME1.
Bien.
Et puis, intervenant à ce titre lors de la table ronde, mais aussi intervenant à double titre, également pour apporter un regard en tant que membre, avec une longue expérience, hein, de 1996 à 2016, enseignant, tuteur, participant de l'équipe de direction, du collège lycée expérimental d'Hérouville-Saint-Clair.
Et entre Étienne et moi, je vous présente également la professionnelle Adèle Potier. Elle est éducatrice spécialisée, responsable d'un groupe d'adolescents de 15 à 18 ans à la maison départementale de l'enfance et de la jeunesse. De l'enfance et de la famille MDEF de Caen. Soyez la bienvenue.
Alors, trois questions pour cette table ronde qui resteront derrière nous, qui doivent nous guider. Et une première question, comme annoncé déjà précédemment, avec la lourde charge peut-être, hein, mais il s'agit d'entendre la façon dont, que ce soit Cécile Leroux, Étienne Sanson ou Adèle Potier, entendent la continuité éducative. Alors c'est vrai que le côté qu'est-ce que est une question qui appelle des définitions, disons plus modestement peut-être effectivement, qu'est-ce qui, selon vous, chacun d'entre vous, hein, qu'est-ce que selon vous, une continuité éducative, alors réussie ou pas, une continuité éducative, la pensez-vous nécessaire ? Alors peut-être à Étienne, comme premier intervenant, pour répondre à cette question.
Oui. C'est pas facile de démarrer
sur une pareille question.
sur une pareille question qui est centrale sur les deux journées. Mais en fait, je vais pas vraiment répondre en fait à la question. Enfin, je vais commencer plutôt en essayant pour moi de différencier ce qui peut être l'idée de la continuité éducative. La différencier d'une idée qu'on pourrait peut-être avoir de lissage, d'un lissage éducatif. C'est-à-dire que dans mon esprit, l'idée qu'un enfant serait, je sais pas, sur une espèce de glissière, de fil, et puis sans heurts, et voilà, la continuité éducative, ça serait ça. Pour moi, c'est pas du tout ça, c'est parce que c'est ce que j'appelle le lissage, c'est ce que j'appellerais le lissage éducatif. La continuité éducative, pour moi, elle ne se porte pas là. Là, je vais m'appuyer sur mon expérience aux clés. Et quand on a préparé cette table ronde, personne n'était venu aux clés en disant, mais en fait, la continuité éducative aux clés, donc collège lycée expérimental, on ne la voit pas. Parce que les élèves passent d'activité en activité, passent de cours en atelier, en option, participer aussi à la vie de l'établissement sur des tâches de ménage, d'aide à la restauration, des choses comme ça. Et donc, au final, la continuité éducative, on ne l'aperçoit pas. Comme ailleurs, les enfants, les élèves passent d'activité en activité. Effectivement, si on en reste au niveau de l'observation, c'est ça. Après, il y a une réelle cohérence, en fait. Il y a une réelle cohérence éducative entre ces différents temps-là. Et cette cohérence éducative, elle est assurée par le travail des enseignants ensemble derrière. Mais ça, on y reviendra plus tard. J'avais aussi envie de prendre la question en creux. De parler d'une discontinuité éducative, et dès l'instant qu'on parle de discontinuité éducative, à ce moment-là, on amène d'emblée une connotation négative sur cette idée de discontinuité éducative. Entre les différents lieux, l'école, le collège, les lieux de loisirs, la maison, etc., en sous-entendant aussi sur cette discontinuité éducative, les adultes qui vont prendre en charge l'enfant, et en tant que parent, par exemple, mon enfant, ou on entend parler aussi, les enseignants parler de nos élèves, mon élève, ne va pas forcément prendre en charge l'enfant de la même manière que moi, je voudrais qu'il soit pris. Pardon, excusez-moi. C'est peut-être aider, au contraire, l'enfant, pour moi, d'être dans différentes réponses éducatives. C'est pas forcément du coup une discontinuité éducative. Donc voilà, le maître mot et ce que je pense avant tout nécessaire par rapport à la question qui est qu'est-ce qu'une continuité éducative, la pensez-vous nécessaire? Je pense davantage à une cohérence éducative. Je pense que c'est d'abord la cohérence éducative qui est nécessaire.
Donc, merci Étienne. Donc une définition effectivement indique ce que c'est et ce que ça n'est pas. Donc c'est surtout pas du lissage. La continuité, c'est plutôt quelque chose qui, pour toi, irait du côté de la cohérence. Adèle ?
Donc, je vais poursuivre la réflexion en vous parlant de mon expérience professionnelle. Donc, je vais faire un constat de départ, puisque au sein de la protection de l'enfance, on a une particularité au niveau de la continuité éducative, c'est qu'elle s'inscrit dans un contexte de discontinuité, dès le départ. C'est-à-dire que lorsqu'on accueille un enfant au sein de la protection de l'enfance, lui, il vit un placement, c'est-à-dire une séparation avec sa famille, avec ses parents. Donc ses repères sont déstabilisés, c'est un moment douloureux, c'est un moment souvent brutal puisqu'on travaille la notion d'urgence. Donc la réalité de l'enfant, lorsqu'il arrive à la maison départementale, c'est bien la rupture et non la continuité. En tout cas, lui le vit de cette manière-là. Donc c'est un moment d'une grande fragilité où enfants et familles sont complètement déstabilisés. Donc nous, pour vous donner un exemple, je vais parler d'une jeune fille que je vais appeler Manel. Donc elle est en troisième au collège et elle signale à un surveillant les difficultés qu'elle rencontre au domicile de sa mère. Donc, violence de la part du beau-père, violence conjugale entre sa mère et son beau-père. Et donc, la surveillante qui recueille ces informations a appelé le 119 pour signaler les difficultés de cette jeune fille. Donc, elle a 15 ans à peu près, Manel, à ce moment-là. Et là, Manel, elle ne se rend pas compte qu'elle a mis le pied un petit peu dans un engrenage qui va l'amener du jour au lendemain à quitter le domicile familial pour arriver sur un foyer, donc où elle va découvrir une équipe d'éducateurs, où elle va découvrir d'autres jeunes qui sont plus ou moins dans sa situation, mais avec des problématiques complètement diverses. Et ce n'est que 2 semaines après son accueil, enfin, en tout cas le magistrat a 2 semaines lors d'un accueil d'urgence, pour audiencer et pour rencontrer les parents, enfin tous les protagonistes qui interviennent dans cette situation-là. Et donc pour Manel, 15 jours après son arrivée sur le foyer, elle a appris qu'elle était placée pour une durée de 1 an. Donc à 16 ans, elle est complètement déstabilisée et elle se rend compte que d'avoir évoqué les difficultés à la maison a fait changer tous ses repères et elle se retrouve dans une situation un peu plus fragile. Pour autant, notre mission, elle est bien celle de la continuité, c'est-à-dire de montrer à la jeune que nous, on intervient dans sa situation à un moment T, mais qu'on n'est pas dans le déni de son histoire et qu'en aucun cas, pour la protéger et l'enlever du danger, il va falloir effacer tout ce qu'elle a vécu précédemment, mais bien au contraire, c'est s'appuyer sur ses difficultés, s'appuyer sur aussi toutes les valeurs et tout ce qu'elle a pu... engendrée comme compétence durant sa petite vie, de les mettre en avant et de travailler avec elle la confiance, parce que c'est par le biais de la confiance qu'on va pouvoir la restaurer. Donc l'idée, c'est de poursuivre. On est bien dans la poursuite de l'accompagnement qu'on va devoir faire. C'est ses parents qui avaient mis en place, comme tout parent, un accompagnement auprès des enfants. Il y a des événements qui ont fait que la chaîne s'est un petit peu brisée. Mais nous, l'idée, c'est vraiment de reprendre par rapport à ces événements-là, de l'aider à poursuivre son parcours, de baliser ce parcours-là pour qu'elle se sente... soutenue, repérer ses besoins, repérer ses difficultés aussi. Au final, c'est comprendre globalement la situation de l'enfant et de la famille, bien qu'au moment de l'accueil, on soit vraiment dans des informations totalement contradictoires. Donc ça va être très compliqué au niveau des professionnels de saisir le vrai du faux de toutes les informations qui nous sont transmises. Et par rapport à la famille, même si eux vivent cette situation comme... j'aurais envie de la simplifier au possible, c'est-à-dire on m'a enlevé mon enfant. En gros, c'est comme ça que les parents nous renvoient les choses. Il va falloir quand même restaurer le lien. Alors la restauration du lien entre parents et enfants, ça va être par le biais de visites médiatisées, quand la situation est suffisamment compliquée et qu'il va falloir, nous, qu'on se fasse tiers dans la relation pour essayer d'échanger, d'accompagner sur les difficultés à la maison. Et puis dans d'autres situations où c'est un peu plus calme et que la notion de danger n'est pas avérée au domicile, on pourra travailler autour de visites libres ou de visites et hébergements au domicile des parents. Donc là où la situation pour les parents est un peu plus simple. Mais les parents, on les reçoit aussi en entretien, de nombreux entretiens où on va parler des difficultés, mais on va parler aussi des objectifs sous forme du contrat et du projet qu'il va falloir créer avec eux. Donc on recherche vraiment l'adhésion des parents, on ne se substitue pas aux parents, donc c'est en ça que la continuité, elle est possible. Mais c'est sur des moments qui sont effectivement très complexes, et pour l'enfant et pour la famille. D'autant qu'on accompagne au quotidien l'enfant, mais tout en travaillant avec la famille, il ne faut pas non plus que l'enfant se sente, entre guillemets, trahi et qu'il entende bien que nous, notre principale mission, c'est quand même de l'accompagner, lui, dans sa problématique par rapport à ses parents. Donc il va falloir remettre de la cohérence, trouver des repères et que chacun retrouve sa place. Et ce n'est pas toujours possible. Pour vous donner juste un cas concret d'une jeune qu'on avait accueillie dans les mêmes conditions à peu près que Manel, lors de la prise de contact avec les parents par téléphone, le père de la jeune fille, donc j'appellerai Marina aujourd'hui, nous a dit « mais je ne connais pas de Marina ». Donc il y avait vraiment un rejet et de l'abandon. C'était en gros, la justice a voulu intervenir dans la situation familiale. Vous avez décidé le placement, parce que souvent c'est nous qui sommes pointés comme les responsables de la situation. Et il y a eu un réel abandon des parents, donc il a fallu qu'on agisse différemment pour cette jeune fille en demandant des délégations d'autorité parentale pour pouvoir poursuivre l'accompagnement. Donc voilà globalement sur quoi s'inscrit la continuité au sein de la protection de l'enfance et en tout cas de la maison départementale. Et je voulais juste finir sur le fait qu'on est sur une tranche d'âge, les 15-18 ans, qui est très courte au final et qui s'approche très grandement de la majorité des enfants qu'on accompagne. Donc quand on a 15 ans, on ne se rend pas compte que dans 3 ans, on va être majeur et que la situation va passer très très vite. Et donc on a souvent la difficulté du jeune de se dire « il faut vraiment que tu investisses ton projet parce que si tu es accompagné dans un cadre judiciaire à la majorité, eh ben, toute la machine s'arrête, donc tout le monde se retire de la situation. » Et là, pour la peine, bah, il est tout seul si on n'a pas eu l'occasion de pouvoir l'accompagner réellement dans sa restauration des liens avec ses parents.
Merci. La parole revient donc à la professionnelle de la PJJ qui a aussi beaucoup à nous dire sur cette question.
Donc, bonjour à tous. La question qui va intervenir, c'est qu'est-ce que la protection judiciaire de la jeunesse ? Parce que peut-être dans cette assemblée, peu ou pas connaissent. Donc, la protection judiciaire de la jeunesse, c'est une direction du ministère de la Justice. Et nous nous occupons des mineurs confiés par le magistrat spécialisé, le juge des enfants ou juge d'instruction. Et on intervient dans l'exécution des mesures judiciaires pour des mineurs selon l'article, selon soit les articles 365 et suivants du Code civil, donc la protection de l'enfance, dans la continuité de ce qu'a dit Adèle Potier, ou alors on est sur le prisme de l'enfance délinquante, donc suite à un passage à l'acte qu'ils ont commis, et donc le magistrat va décider de nous confier le mineur plus ou moins longtemps en fonction et de l'infraction et de l'âge qu'il a au moment de la commission des faits. Adèle parlait de majorité. À la PJJ, on est en capacité de prendre en charge les mineurs jusqu'à 21 ans, avec le prisme de 18-21 ans, selon lequel soit le magistrat se dessaisit, et dans ces cas-là, la mesure est confiée au SPIP, donc Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation. Donc c'est pour ça que je vais aussi évoquer ce dont Gabriel Prouveur devait parler, puisqu'il est effectivement chef d'antenne sur une unité dans l'Orne. Et donc cette mesure est soit maintenue à la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à 21 ans, soit confiée directement au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Sachant que si le majeur commet, lui, une infraction à sa majorité, de toute façon, la mesure sera confiée au service pénitentiaire d'insertion et de probation, puisque nous sommes liés par l'âge du mineur à la commission des faits. La continuité des parcours plutôt que de continuité éducative. Pourquoi j'utilise moi plutôt cette définition ? Parce que c'est au centre des orientations de la protection judiciaire de la jeunesse et notamment la directrice Madame Sultan, ancienne juge des enfants, a œuvré depuis 2014 sur le fait qu'il était nécessaire pour nos mineurs de pouvoir les accompagner dans une cohérence de parcours. Alors là, je rejoins ce que dit aussi le Étienne Sanson. On est, nous, forcément, la rupture fait partie de leur parcours. Pourquoi ? Parce que ce sont des mineurs qui ont successivement ou concomitamment connu plusieurs institutions, plusieurs champs d'intervention. Ça peut être, bien sûr, la santé, tout ce qui est lié au handicap avec les ITEP, les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques. Ils peuvent avoir eu un parcours en CESAD, ils peuvent avoir connu la protection de l'enfance, ils ont connu l'éducation nationale. Donc voilà, c'est tous ces champs institutionnels qui vont in fine, parce que l'acte vient faire symptôme dans leur parcours, que le judiciaire et donc que la protection judiciaire de la jeunesse va intervenir. Le diagnostic qui a été posé par notre administration n'est pas nouveau, notamment sur le fait que ces mineurs ont des parcours chaotiques. Alors parfois, vous avez certainement entendu parler de patates chaudes, de situations complexes, de mineurs dits incasables. Et chaque institution, on a, ce qui semble plutôt naturel, tendance à se retrancher vers nos champs de compétences propres, donc que ce soit le champ, je l'ai dit, de la santé, de la scolarité. Or, pour ces mineurs dont la socialisation est problématique, il convient plutôt de réfléchir à une transversalité de champs de compétences et donc à la construction, non pas dans une logique d'institution, mais dans une logique de dispositif. et la protection judiciaire de la jeunesse. En général, on est en bout de course, puisque ces mineurs peuvent avoir eu un parcours en protection de l'enfance, dans le champ du handicap. Et donc, on arrive à un moment où voilà, tous les acteurs autour de cette prise en charge, y compris la famille aussi, viennent dire stop, viennent dire ce n'est plus notre compétence. Et donc, à nous de pouvoir relever le défi, de les accompagner vers une réinsertion sociale. La PJJ, là aussi, là, si on reprend le vocable, a réaffirmé dans une note de 2014 l'importance du milieu ouvert socle. Alors socle, pourquoi ? Parce que le service que je dirige, on est en général les premiers à intervenir sur les premiers faits de délinquance. Donc un mineur peut être à la protection judiciaire de la jeunesse suite à une commission d'infraction à partir de 10 ans. Et donc, dès les premiers faits, alors qu'ils sont en général minimes, hein, on est sur du vol ou de la dégradation ou de la violence sur éducateur en institution, ils vont donc arriver par ce qu'on appelle une mesure de milieu ouvert, donc un accompagnement avec l'exécution, par exemple, d'une mesure de réparation. Donc l'objectif est bien de travailler sur l'acte que le mineur a commis, sur une durée qui est entre 4 et 6 mois. Et ensuite, on va accompagner ce jeune tout au long de la prise en charge, qui peut s'avérer nécessaire jusqu'à parfois demander, en ce qui nous concerne, des placements plus ou moins contraints, voire la détention, puisqu'effectivement, un mineur peut aussi être incarcéré dès l'âge de 13 ans. Et donc, c'est ce service de milieu ouvert qui doit être le fil rouge et qui doit accompagner cette continuité de parcours pour pouvoir aménager son parcours et faire des propositions au magistrat, puisqu'on est bien sous délégation du magistrat, et donc on doit lui rendre compte de ce que met en œuvre le jeune et sa famille pour l'accompagner vers des dispositifs les plus adaptés. Donc plutôt que de continuité éducative, la continuité, c'est ce qui ne s'inscrit pas dans la rupture. Or, nos mineurs sont en rupture, et donc je privilégierai le concept de parcours qui vise à appréhender les événements, les tournants, les arrêts, les ruptures, les bifurcations, puisque leur parcours est fait de discontinuité. Et du coup, ça m'amène à réfléchir la notion qui implique la continuité plutôt d'un cheminement vers un but, sans préjuger ce que disait Étienne d'une linéarité, puisque le jeune est soumis aux aléas de son parcours. Et selon moi, je rejoins ce que disait Étienne aussi, c'est plutôt la recherche de la cohérence de la prise en charge plutôt qu'une continuité éducative. Je prendrai un exemple. Quand on est sur une période d'incarcération, c'est une période, une parenthèse dans le parcours de ce mineur. Mais en même temps, ça peut permettre pour les éducateurs qui n'arrivaient pas à créer de l'accroche, comme on intervient en détention, de pouvoir faire rencontrer par ce jeune un travailleur social et donc l'amener à travailler son projet et à travailler sa sortie. Ça permet aussi de le soigner, de le protéger et qu'il puisse, par cette contenance physique et psychique, de mettre au travail des choses qu'on n'aurait pas réussi à mettre au travail malgré la décision judiciaire. Alors parfois, la PJJ a aussi... porte la proposition de rupture. Alors ça peut vous paraître comme pour la maison départementale de l'enfance, mais voilà, parfois on est dans ce souhait de faire rupture. Alors faire rupture au travers des outils que sont par exemple les séjours de rupture ou les centres éducatifs renforcés, où l'objectif de ces établissements de placement, c'est bien d'éloigner le jeune de son environnement familial et de faire rupture avec son quartier, avec sa famille, avec ses fréquentations ou avec son réseau qui ne lui est pas profitable. Et le bémol que je mettrais, c'est de cette volonté de réfléchir en parcours et en continuité de parcours. Il faut faire attention à ce que ça ne prenne pas des allures de performance ou des allures où on serait dans une recherche avant tout de complémentarité, là où il faut bien qu'on soit sur une individualisation de la prise en charge, puisque l'objectif, c'est... De faire à ce que ces événements de discontinuité s'inscrivent dans un parcours en continuité. Voilà, ce serait un peu les réflexions que je voulais apporter sur cette première question.
La question, nous allons vous en servir. Et donc, sans transition, nous passons à la seconde. Comment les espaces-temps de rencontre interviennent-ils dans ces continuités ?
Donc, et comment travaillent les professionnels?
Oui, et le second
également.
Volet, pardon. Comment les professionnels travaillent-ils ensemble, cette continuité?
Donc, pour travailler la continuité éducative, il faut prendre le temps de se rassembler autour du jeune, se rassembler autour du projet. Donc, j'évoque toujours le cadre de la protection de l'enfance, bien évidemment. Donc, c'est faire en sorte que le jeune puisse, enfin, instaurer un climat de confiance pour que le jeune puisse travailler et collaborer avec nous. Tenir compte de la temporalité, parce qu'en fait, le moment de la rupture, comme je disais tout à l'heure, va venir un peu casser, en tout cas fragiliser la continuité. Et donc l'idée va être de lui donner cet espace-temps pour se restaurer et avoir de nouveau envie d'aller de l'avant. Et puis des échéances qui s'imposent à nous, qui paraissent un peu complexes pour le jeune qu'on va accueillir sur le groupe, mais qui très vite vont devenir un langage assez courant, puisque tous les jeunes accueillis vont tenir un peu les mêmes échéances. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment ça se déroule, je prends l'exemple d'un accueil d'un jeune sur la maison départementale. Donc, au départ, c'est la réception d'un mail de la direction enfance-famille qui nous dit voilà, ce jeune-là est en difficulté pour telle ou telle raison, avec des problématiques bien, bien diverses, et demande l'accueil en urgence au sein de la maison départementale pour le protéger. Donc, quand on a de la place, ce qui est merveilleux, on contacte les partenaires qui sont déjà en charge de la situation. Donc là, on est vraiment dans la continuité et dans la transmission des informations. Et donc, on va faire en sorte de préparer cet accueil. C'est un bien-être pour le jeune qui va arriver sur la maison départementale, mais c'est aussi réconfortant pour l'équipe qui accompagne le jeune, puisque quand on assure comme ça les transitions, c'est vrai qu'on a toujours à cœur que justement ces transitions ne soient pas vécues comme une nouvelle rupture pour le jeune qu'on accompagne. Donc voilà, ça c'est la situation idéale où on a temps de préparer, où on peut rencontrer les professionnels qui sont intervenus dans la situation au préalable auprès de l'enfant, et ensuite rencontrer l'enfant et rencontrer sa famille. Donc là, on est vraiment sur la situation idéale où on va créer du lien entre tous ces différents protagonistes. Mais très souvent, on est sur un accueil en urgence, donc comme j'expliquais tout à l'heure avec la situation de Manel, où on notifie une notion de danger pour l'enfant, où l'accueil est fait dans la journée même pour l'enfant, donc il est retiré de son milieu familial, il arrive au foyer, et donc là il va falloir que tout se gère sur une seule journée, donc c'est très très douloureux pour l'enfant, pour la famille qui se voit retirer l'enfant, enfin je ne vais pas revenir sur tous ces détails-là. Et c'est ensuite qu'on va contacter et les parents et les professionnels qui sont intervenus auparavant dans la situation. Donc les nombreuses échéances qui s'imposent aux jeunes, qui s'imposent aux professionnels, qui s'imposent à la famille également, vont venir rythmer le placement. Et même si c'est des échéances qui peuvent amener à ce que nous soyons, encore une fois, créateurs de rupture pour le jeune, c'est quand même des échéances qui vont rassurer le jeune. C'est-à-dire que lorsque le jeune arrive sur le foyer, il sait qu'il va y avoir une audience qui va être... Enfin, on parle de tout avec le jeune et on essaye de le rassurer en lui donnant un maximum d'informations sur les échéances qui vont s'imposer à lui. Donc l'audience, qu'est-ce que c'est qu'une audience? Pour les jeunes, ils ont toujours l'impression d'être dans des lieux tels qu'on les voit à la télé, avec toute une organisation judiciaire qui peut être assez impressionnante, alors qu'effectivement, être devant le juge des enfants, c'est être dans une petite pièce avec un bureau, un juge, les parents, les avocats éventuellement, les professionnels et le jeune. Donc déjà, ça dédramatise un petit peu cette situation-là, même si cette instance-là est très, très compliquée pour le jeune. Lorsqu'on est sur des accueils administratifs, donc le rendez-vous va se faire à la direction enfance-famille, où là, va être contractualisé avec les parents. C'est en cela que c'est différent. C'est que les parents adhèrent à la proposition du placement et donc vont être partie prenante des objectifs et de ce qu'il faut travailler avec leur enfant. Donc là, on sera au niveau de la direction enfance-famille. Et puis, il y a de nombreux rendez-vous, comme je disais précédemment, pour la signature de contrat, pour les signatures de projet, parce qu'un projet, même s'il se fait initialement entre le professionnel et le jeune, bien évidemment, les parents sont sollicités pour participer au mieux au projet quand cela est possible. Et puis, la spécificité de la maison départementale, c'est... Alors, pas l'écriture des bilans, puisque l'écriture des bilans, je pense que tous les intervenants du social sont amenés à en faire très régulièrement. Mais nous, notre particularité, c'est que 3 mois après l'arrivée du jeune, on met en place un bilan d'orientation. C'est-à-dire que le jeune qui arrive en urgence à la maison départementale, il lui est dit, voilà, nous on est là pour te protéger parce que la situation est compliquée, mais dès à présent, on va commencer à évaluer ta situation pour t'orienter de nouveau vers une structure adaptée, puisque nous, accueil d'urgence, veut dire qu'on accueille le jeune sur un temps relativement limité. Bon, après, la notion d'urgence est elle-même relativement limitée, puisque on a de l'urgence qui dure plus d'un an, donc pour les jeunes, c'est très déstabilisant et inconfortable. Mais là, c'est la politique actuelle qui fait qu'il n'y a plus forcément de place dans les structures vers lesquelles on veut orienter le jeune. Donc le jeune est, entre guillemets, bloqué sur notre foyer, ce qui nous empêche nous-mêmes de recevoir de nouveaux jeunes qui pourraient être eux-mêmes en difficulté au domicile. Mais là, c'est une réalité actuelle et c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, pour ce jeune, on crée par ce bilan d'orientation une nouvelle rupture. Mais pour autant, nous, notre travail, ça va être d'accompagner le jeune durant ces 3 premiers mois et souvent les mois suivants, dans l'idée que cette nouvelle rupture ne va pas en être une. Donc ça paraît un petit peu paradoxal, mais l'accompagnement qu'on va pouvoir mettre en place à côté des jeunes, avec le jeune, et en cherchant l'adhésion du jeune, et c'est en cela que la rupture ne va peut-être pas se faire, c'est de lui dire, ben voilà, aujourd'hui, effectivement, on ne va pas te garder avec nous pendant de nombreuses années, puisque ce n'est pas notre mission. Mais par contre, on t'accompagne vers un dispositif qui va être le plus adapté à tes difficultés, à tes besoins. Donc ça peut être un accueil en famille d'accueil pour les jeunes qui ont besoin d'un milieu contenant. Ça peut être un accueil en foyer jeunes travailleurs pour les jeunes qui sont à l'aube de leur majorité et qui sont investis dans un projet professionnel et qui vont plutôt rechercher l'autonomie. Mais ça peut être aussi les foyers éducatifs, enfin les maisons d'enfants à caractère social. Enfin, il y a divers lieux où le jeune peut être orienté. Donc en cherchant l'adhésion du jeune et en travaillant avec lui sur son projet, on va éviter de lui faire revivre cette rupture qui est quand même inévitable, mais dans l'idée de la continuité de son histoire et de son parcours et d'une nouvelle étape à franchir. C'est vraiment l'idée d'un nouveau départ.
Merci. Donc pas de répétition, surtout pas de répétition de l'adhésion. C'est ça.
Mmh. Cécile ? Oui, alors même démarche pour la protection judiciaire de la jeunesse, même si voilà, on a la particularité d'être sur de l'aide contrainte, puisque le jeune n'est pas forcément volontaire à l'exécution des décisions qui s'imposent à lui. Pour moi, la continuité éducative, elle repose selon 3 impératifs. Ça reprendra un peu ce que disait Adèle. Le premier impératif, c'est la qualité de l'information. Ce mineur, quand il nous arrive, il a une histoire, il a un parcours. Et l'importance pour nous, c'est de retracer ce parcours avec les informations, des synthèses, des anticipations, avec des rencontres au préalable. On a l'accès au dossier du mineur, que ce soit au tribunal ou à la direction enfance-famille. Donc l'objectif, voilà, c'est de pouvoir recueillir un maximum d'informations et prendre la situation au moment où elle nous est proposée, enfin, elle nous est imposée, et essayer de, voilà, d'éviter. Alors, je prends un exemple, hein, mais un mineur incarcéré, on a l'obligation, normalement, pour celui qui a fait ce qu'on appelle l'évaluation au sortir de la garde à vue, de pouvoir avoir un recueil de renseignements sur les, voilà, les premiers éléments. Et ce recueil de renseignements, il doit être faxé au service de détention, donc le lieu où va être incarcéré le mineur, pour pouvoir voilà, avoir des premières informations pour faire ce qu'on appelle l'entretien arrivant. Et j'ai un éducateur, une fois, qui arrive, qui n'avait pas reçu ce recueil et qui lui dit, bon, alors, dans le temps de présentation, tes parents, voilà, comment je les contacte, ta maman, ok, ton papa, non, il est mort. Vous voyez, ça paraît anecdotique, mais déjà sur une période très fragile qui est l'arrivée en détention, c'est cette transmission d'informations, voilà, puisque sur par exemple le quartier mineur de la maison d'arrêt de Caen, on a des mineurs qui ne viennent pas que du Calvados, ils peuvent venir de la grande région Normandie, donc on n'a pas forcément connaissance de ces mineurs rouennais ou autres, et donc c'est l'importance de pouvoir communiquer ce recueil, c'est-à-dire l'éducateur au tribunal de Rouen a produit un recueil de renseignements qu'il doit faxer pour qu'on ait le plus d'informations et éviter de poser des questions qui n'ont pas d'intérêt, en tout cas dans ce temps arrivant. La particularité aussi de la PJJ, c'est le fait d'avoir ce fameux service de milieu ouvert. On est en capacité de suivre le jeune dans tout sa trajectoire de parcours, donc notamment quand il est placé. On a des temps de synthèse et des temps d'accompagnement sur les lieux où il peut être donc placé, plus ou moins contraint, les établissements de placement, les centres éducatifs fermés ou autres. Et donc l'éducateur de milieu ouvert fait ce fil rouge parce qu'il va parfois en sollicitant ces lieux de placement pouvoir être l'interface entre le service qui va l'accueillir sur un temps déterminé et l'après-projet, puisque le placement au pénal n'a qu'un temps de durée, puisque l'objectif, c'est bien qu'il rebascule en protection de l'enfance à l'issue de son parcours sous le fondement de l'ordonnance de 45. L'importance aussi de ce passage à la majorité, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais il est important. Pour nous, un éducateur de milieu ouvert, il a 25 jeunes en suivi, là où le service pénitentiaire, un conseiller d'insertion et de probation peut en avoir plus de 200. Donc on est sur des ratios qui ne sont pas du tout les mêmes, et donc on va avoir une obligation pour nous de hyper sollicitation du jeune, parce qu'on est très présent, on l'accompagne dans les démarches de stage, de recherche d'emploi, à la mission locale par exemple, et là où le conseiller d'insertion et de probation va être davantage, lui, sur une autonomie de ce jeune adulte qui doit plutôt attester des démarches, être dans une recherche d'exécution de ce qui lui est demandé et des obligations que le juge lui a données. Ce passage à la majorité, qu'il soit en détention ou en milieu ouvert, l'important, c'est d'avoir anticipé ce passage de relais et d'avoir fait, en général, on fait un entretien triptyque entre le conseiller d'insertion et de probation, l'éducateur qui a bien connu le jeune et sa famille, et le jeune et sa famille, pour pouvoir poser les choses, dire là où on en est de son parcours et qu'est-ce qui fait que ça va pouvoir se dérouler convenablement. Le deuxième impératif, c'est pour moi la qualité des articulations. Effectivement, on est pour nous dans qu'un maillon de la chaîne autour de ce jeune. Le jeune, il a une famille, le jeune, il a un juge, il a des secteurs d'insertion, il a santé. Et donc, c'est comment on arrive à être dans la création. Le docteur Egler du CHU à Caen aime à parler de ponts. Effectivement, de construire ces ponts pour que la prise en charge soit entourée de professionnels en fonction de sa problématique et de ses besoins. Et donc, c'est comment nous, on est à l'interface de ce jeune et cette famille et des professionnels qui gravitent autour de lui. Et le troisième impératif, ce serait pour moi l'importance de l'anticipation. Parce qu'on est sur un temps judiciaire. Alors le temps judiciaire n'est pas le temps du jeune, loin de là, n'est pas le temps de l'adolescence, n'est pas le temps de socialisation. Et donc on est enjoint par ce cadre judiciaire qui nous oblige à anticiper le parcours, parce que parfois la récidive fait qu'on est pris aussi dans un rythme de passage à l'acte du mineur qui nous amène à penser l'action éducative à des temps qui ne sont parfois très, très longs. Par exemple, si je donne l'exemple de la consommation de cannabis, qui peut être un frein à l'insertion sociale et professionnelle, le temps du soin n'est pas le temps de la réponse judiciaire que souhaite le magistrat sur une réponse à l'obligation d'insertion professionnelle. Voilà, donc c'est comment on allie ces deux temporalités et qu'on montre à voir au juge que la prise en charge de l'insertion sociale passe d'abord par une étape de soins. Et le jeune, on le sait tous, n'est pas toujours prêt à se soigner, même sous injonction. Les professionnels travaillent cette continuité. Et notamment, ce qui me semblait aussi important de dire, c'est que on peut avoir une connaissance du parcours du mineur que lui ne se vit pas comme tel. Donc on a des outils, par exemple les lignes de vie, les génogrammes, enfin on a vraiment cette obligation, quand on rentre en relation avec un mineur, de pouvoir commencer par retracer ce qu'il dit de son parcours avec des frises, et quand on a voilà, des temporalités de plusieurs années où le mineur ne nous met aucune date, aucun événement, alors que nous, dans son dossier en assistance éducative, on a pu retracer un certain nombre de choses. Voilà, l'important, c'est aussi de pouvoir partir de ce que dit le mineur, de son récit de vie, de ce que dit la famille de son récit de vie, et de pouvoir nous faire des liens entre les actes qu'il a posés et les dates dont il parle lors de ses lignes de vie. Voilà, et je terminerai aussi sur comment les professionnels créent des espaces. À la PJJ, mais ailleurs, hein, on est obligé de faire preuve de créativité, d'inventivité, parce qu'on est obligé de déplacer notre cadre d'intervention. Voilà, je prends l'exemple d'une psychologue. La psychologue en entretien duel dans un bureau, c'est compliqué. Le mineur, il n'arrive pas à accéder à ce type de modalité d'intervention. Et donc, voilà, on est, par exemple, dans des propositions avec les jeunes et les familles de pouvoir aller sur des espaces différents qui vont être soit le média éducatif, soit le lieu qui est différent. Alors, ça peut être la plage, le restaurant, enfin voilà, on essaye de trouver des modalités d'intervention qui vont répondre aux besoins du jeune pour arriver in fine aux objectifs qui ont été posés avec lui et sa famille.
Je vais suivre évidemment ce qu'on dit Cécile et Adèle, si ce n'est que moi je veux me positionner dans le cadre scolaire. Je parlerai évidemment du clé, mais dans le cadre scolaire, enfin, on voit là dans les deux exemples où systématiquement le jeune est concerné sur les différents rendez-vous, il assiste à tout ce qui le concerne directement. Dans le cadre scolaire, c'est rarement le cas, sauf cas grave, conseil de discipline, mesures disciplinaires, mais sinon toute la scolarité, le suivi, l'élève n'est pas forcément concerné directement, et voire même, quitte à me faire des ennemis dans la salle, pas forcément pris en compte dans sa scolarité. Il fait partie d'une classe, il fait partie d'un groupe, mais lui en tant que tel n'est pas forcément considéré. Donc moi ce qui me semble déjà important, et c'est ce qui m'a un petit peu motivé effectivement à rester 20 ans au CLE, c'est que dans ce projet du CLE, l'élève est au centre du projet. C'est pas un vain mot de dire qu'il est au centre du projet, c'est-à-dire que si on prend un exemple tout bête, des emplois du temps par exemple, les emplois du temps sont construits autour des élèves, enfin dans l'intérêt des élèves, et pas dans l'intérêt des enseignants qui pourraient avoir leur vendredi ou leur lundi, etc. Je continue toujours un petit peu sur la provocation. Donc, ça c'est essentiel. Mettre l'élève au centre du projet, ça veut dire aussi le considérer en tant que personne par le biais du tutorat. Il y a ce principe de tutorat pour tous, contrairement aussi à ce qu'on peut peut-être voir, la pratique du tutorat des élèves est assez répandue, mais on met en place un tutorat pour des élèves qui sont en difficulté ou pour des élèves qui ont telle ou telle problématique. La question du tutorat, du tutorat pour tous est importante. Et là, on est bien sur un lieu, de rencontre avec l'élève en individuel. Alors, je vais quand même sur cette idée de rupture. Il y a nécessité aussi de changer de tuteur tous les ans. Il y a besoin de cette rupture, même si le tuteur assure et est détenteur, on va dire, d'une certaine continuité, effectivement, éducative, scolaire, enfin tout ce qu'on pourra mettre derrière, tout au long de l'année scolaire, il y a besoin de rupture. On a fait, enfin, moi en tant que tuteur, j'avais demandé une année à garder le même élève d'une année sur l'autre parce que c'était une problématique un peu difficile avec un passage en conseil de discipline, avec des relations avec ses parents difficiles. Enfin voilà. J'ai demandé à garder en disant, bah, de toute façon, voilà, je connais la vie de cet élève-là. Donc, sur une deuxième année, il n'y aura pas à tout recommencer. Il n'y aura pas à redonner toutes les informations, etc. Et ça a été un fiasco sur la deuxième année. Ça a été un fiasco sur la deuxième année parce que, bah, en fait, je dirais qu'en... on se connaissait trop. Je connaissais trop lui, ce qu'il allait faire, ce que cet élève-là allait faire, et lui me connaissait trop aussi sur les réponses que je pouvais lui apporter. Dans la relation avec ses parents aussi, c'était sur la deuxième année, c'était compliqué. Donc il y a besoin, je pense, régulièrement, et symboliquement, je pense que dans le cadre scolaire, symboliquement, l'année scolaire, rythmée par année scolaire sur un changement de suivi tel que le tutorat dans un établissement scolaire, moi ça me paraît important. Cette idée de tutorat aussi, de mettre l'élève au centre du dispositif scolaire, pour moi il va aussi avec un contrat que l'élève doit clairement l'élève signe un contrat en début d'année. Ce contrat lui donne le droit de certaines choses, de certaines possibilités, et lui, dans ce contrat, il a un certain nombre de devoirs. Alors c'est pas des devoirs très très compliqués, hein. Nous on résume ça sous le fait de faire son métier d'élève. Être assidu, rendre les devoirs, des choses très simples. Et au moment où il y a rupture de contrat, à ce moment-là, il peut perdre le bénéfice d'un certain nombre de choses. Alors, les redoublements ne sont plus de mise actuellement, mais il y a encore quelques années. Mais pour les lycéens, c'est encore le cas, le choix de l'orientation. C'est-à-dire, si j'ai respecté mon contrat, si j'ai respecté mon métier d'élève, je peux aller à l'encontre de la décision du conseil de classe, par exemple, au moment de l'orientation en fin d'année scolaire, parce que j'aurai respecté mon contrat. J'essaie d'aller un petit peu plus rapidement. Sur la question du lieu aussi, alors je reste sur l'école. Moi, il me paraît essentiel que les enseignants habitent l'école. J'emploie volontairement ce terme-là, habiter l'école, c'est-à-dire soit présent, parce que il y a tout un tas d'interstices, de lieux dans lesquels la continuité éducative joue. Si je viens au collège ou au lycée simplement pour faire mes 3 heures de cours dans la journée et que je m'en vais juste après, ce qui n'est pas le cas de, évidemment, la grande majorité des enseignants, mais c'est le cas de certains, je ne vais pas pouvoir assurer cette continuité éducative. Je ne vais pas pouvoir me tenir informé de là où en est tel ou tel élève, de pouvoir répondre à telle ou telle question. Au CLE, ça va plus loin. Les élèves sont... obligés, enfin en tout cas fortement incités à rester sur les temps de midi. Il n'y a pas de salle de restauration séparée enseignant-élève. Les enseignants, comme les élèves, participent aussi à un certain nombre de tâches de service, on va dire, d'aider aux services de ménage, d'aider aux services de restauration. Et ça permet aussi faire passer le coup de balai dans une salle en même temps qu'avec des élèves. Ça permet, je pense en tout cas, d'assurer cette continuité éducative. Je change de casquette et puis je termine juste là-dessus. Change de casquette du point de vue des CMEA. Les CMEA accompagnent depuis un certain temps les PEDT ou PESL dans la Manche. Je ne sais pas si ça vous parle, plan éducatif territorial ou plan éducatif social local. Donc accompagnent des acteurs locaux dans leur travail. Et cette idée d'avoir des lieux de rencontre et des temps de rencontre entre les professionnels est absolument primordiale. J'ai un exemple assez parlant lors d'une réunion autour d'un PEDT. Donc, on avait autour de la table un certain nombre d'acteurs, dont une inspectrice de circonscription, un responsable d'étape, quand l'étape était encore en place sur une municipalité, et puis une assistante sociale. se pose le problème, enfin une situation est évoquée autour de, en fait, du refus, une difficulté autour de la cantine d'une enfant, quoi, enfin qui était en face d'être exclue de la cantine pour non-paiement, enfin une situation très très compliquée qui aurait mis certainement plusieurs semaines en fait à être démêlée par le biais de courriers, de demandes administratives, etc. Cette situation-là a été réglée en une heure de temps parce que les gens se connaissaient, avaient l'habitude de travailler ensemble, connaissaient aussi le travail des autres, donc savaient qu'un tel, que l'assistante sociale pouvait agir dans tel cadre, l'inspectrice de circonscription aussi, et c'est une situation qui a été réglée très 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 rapidement. Donc cette nécessité d'avoir des temps de rencontre entre professionnels et pas simplement uniquement des temps de rencontre entre du même de personnes du même service ou de la même administration, elle est essentielle.
Voilà. Merci. Vous avez déjà un petit peu répondu à notre dernière question, mais qu'on va toutefois poser en allant peut-être un petit peu rapidement pour ne pas trop déborder de notre temps, parce que vous avez parlé de créativité, par exemple. Vous avez parlé de l'invention de certains lieux qui sont mis en place. Quel changement y a déjà-t-il eu lieu? Quel changement au futur voyez-vous dans le travail que de mettre en place cette continuité ou cohérence de parcours, peut-être à effet éducatif plus que éducatif, dans le métier ou dans les identités professionnelles?
Alors peut-être, voilà, j'ai commencé à en parler, mais on est de plus en plus, alors voilà, est-ce que c'est un constat partagé par les autres institutions, mais en tout cas on arrive à nos propres limites, notamment sur des mineurs qui cumulent les difficultés sur tout registre, et on est ces mineurs nous amènent à devoir réfléchir à une prise en charge adaptée dans la notion d'adaptabilité qui est très forte dans notre institution aujourd'hui. Alors ça a été le cas par exemple avec, mais Adèle reviendra, pour nous aussi le développement des placements éducatifs à domicile, travailler la séquentialité, travailler le renforcer, donc c'est-à-dire que on doit pouvoir à un moment donné réfléchir nos organisations pour mettre plus de moyens, notamment sur des temps charnières que sont les sorties de dispositifs de placement, les sorties d'incarcération, ou à l'inverse de pouvoir faire du distancié. Alors voilà, nos administrations, on n'a pas encore vraiment trouvé quelle pouvait être la distanciation dans l'éducabilité, mais voilà, on y réfléchit en tout cas, parce que on doit accompagner les professionnels sur un changement de posture et de réfléchir vraiment en innovation, parce que, alors j'ai un exemple en tête qui, voilà, un mineur qui avait essuyé 27 familles d'accueil, 8 foyers éducatifs, il nous avait fait, nous, 2 centres éducatifs fermés, 2 centres éducatifs renforcés, et il avait que 16 ans. Et il connaissait déjà un parcours d'incarcération. Donc voilà, et au vu de sa problématique, le psychiatre qui nous accompagnait dans cette prise en charge, voilà, a été à dire, bah, il faut construire autour de lui une boîte. Ah, une boîte, c'est-à-dire. Et en fait, c'est avec la direction enfance-famille, avec le champ du handicap, avec l'établissement public en santé mentale, avec la protection judiciaire de la jeunesse, qu'on a, sous l'impulsion du juge, réfléchi et construit à, voilà, une boîte, c'est-à-dire que le mineur voilà, bénéficiait d'un appartement. Et puis, nos organisations venions à sa rencontre sur le champ de l'insertion, de la santé, etc. etc. Parce qu'il n'était pas possible, il n'existait pas de structure qui pouvait le prendre en charge. Voilà, il n'était pas imaginable qu'il soit indéfiniment l'EPSM. Il ne pouvait pas être indéfiniment dans une structure contenant type centre éducatif fermé, parce que le cadre judiciaire ne nous le permet pas. Il ne pouvait pas être uniquement en protection de l'enfant sur un foyer classique. Voilà. Donc, tous ces champs de l'impossible des uns et des autres nous a obligés à réfléchir impossible pour lui. Alors, voilà, avec un bémol, c'est le coût de ces adaptabilités à l'extrême, puisque voilà, pour un mineur ou un jeune majeur, ça nécessite voilà, de, pour chaque institution, de faire ses pas de côté. Je ne sais plus qui parlait d'errance institutionnelle, mais c'est voilà, pour éviter que ces mineurs soient dans cette errance d'aucune structure finalement qui ne plus en capacité de le prendre en charge, c'est comment on réfléchit à réfléchir autour de lui plusieurs institutions et dans une éviter la rupture, puisque on l'a dit aussi, hein, quand le mineur fait 27 familles d'accueil, on se pose quand même la question du lien à l'attachement et du lien à comment il va se construire en tant qu'adulte de demain sans avoir d'identification à un lien stable et sain.
Etienne, peut-être.
Etienne. Oui. Moi, je pense que qu'il devient un petit peu urgent de redéfinir la professionnalité enseignante, en fait. Je reviens sur mon cadre hein, de l'école. C'est-à-dire que je pense que enseignant, c'est pas simplement enseigner, c'est aussi éduquer. Et je pense qu'il faut, voilà, faut sortir de. Et effectivement, comme tu le disais, Anne-Laure, faire preuve de créativité en tant qu'enseignant. Rien n'empêche de sortir de son cadre. Mais je pense cadre qui est lié simplement à une image d'Épinal. Je suis enseignant face à une classe. Absolument rien n'empêche de sortir de ça. Alors ce que j'ai pu vivre au CLÉ où on est à la fois, enfin je l'ai évoqué tout à l'heure, on est à la fois prof, encadrant d'ateliers, d'autres activités. À certains moments, on est au service de cantine, on surveille des couloirs. Enfin. Voilà, on est sur, et y compris sur des tâches de responsabilité, et ça tourne, c'est une équipe tournante. Donc, et ça, je pense que c'est très, très, très enrichissant, et ce qui permet justement de pouvoir faire tourner aussi cette continuité éducative, et aussi de se rendre compte de la place de l'élève, de l'enfant, que la personne qu'il a en face de lui n'est pas simplement que le prof d'histoire géo, que le prof de maths. Il est aussi autre chose. Il a aussi d'autres compétences. Il sait faire aussi autre chose. Il partage d'autres choses. C'est vrai que parfois, moi, ce qui me... Ah, au cours de ma... moitié de carrière, on va dire. Ce qui m'a toujours choqué, c'est d'entendre des enseignants, y compris au CLÉ, c'est pas à moi de faire ça. Face à une situation, c'est pas à moi de faire ça. Je reprenais quelque chose alors qu'on a régulièrement sur les réseaux sociaux, chaque début d'année, qui sont diffusés sur un enseignant ou un prof doit apprendre à lire, à compter, etc. Et un parent doit apprendre à faire les lacets, apprendre à manger, à être poli, etc. Je supporte pas cette image parce que c'est pour moi c'est ni l'un ni l'autre. On est tous autour de l'éducation des enfants. Alors, je vais prendre un autre angle d'attaque sur les. Donc, c'est la question, c'est les changements que ça produit dans le travail. Alors, il y a un changement. Alors, je vais dire récent, pas si récent que ça, mais c'est l'informatisation des données scolaires et autres des enfants et des élèves. Moi, il me paraît essentiel d'incarner la continuité éducative et on a des outils. Je prends un outil que peut-être certains connaissent, voire la plupart, Pronote, qu'on connaît peut-être en tant que parent ou en tant qu'enseignant, qui permet de suivre la scolarité, voire même plus que la scolarité de son enfant, parce que Pronote, effectivement, comme son nom l'indique, suivi des notes, ok, mais pas que ça. C'est suivi des absences. C'est aussi un superbe outil, un superbe moyen d'information, de communication entre les différents acteurs. Génial. On sait tout de l'enfant à l'instant T. L'enfant ne sait même pas qu'il est en retard, que les parents, parfois, sont déjà au courant qu'il est en retard ou absent. Et c'est là où je pense qu'on se trompe. je pense qu'on se trompe, parce que la continuité éducative, ce que je disais tout de suite, on a besoin de l'incarner. Et qu'un enfant qui est en retard de 5 minutes, peut-être que la première chose à faire, c'est peut-être pas forcément que le parent soit informé que l'enfant soit en retard de 5 minutes, peut-être déjà de voir pourquoi il est en retard de 5 minutes et ce qui l'amène à être en retard de 5 minutes. Et peut-être que ça, c'est à gérer au sein de l'établissement, peu importe par qui, ça, que ce soit la vie scolaire, etc., peu importe, mais c'est d'abord, je dirais, de traiter le problème avant, peut-être, que les parents en soient informés. Et puis, voilà, enfin, là, surprenant, je pourrais être très critique et très longtemps. Même chose sur les notes, sur les évaluations. Enfin, j'ai un exemple très récent et très concret d'une enfant qui a vu le résultat d'une évaluation qu'elle pensait avoir réussi. Je la connais très bien, hein, c'est ma fille. Papa, j'ai eu 8,5 à mon devoir d'histoire géo. Pourtant, je pensais l'avoir bien fait. Voilà, elle le voit sur Pronote. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Peut-être que il y a peut-être des choses, ça arrive, etc. En fait, résultat, l'enseignant s'était trompé dans la saisie, ce qui a fait qu'elle a stressé pendant toute une nuit et une matinée, etc. L'enseignant s'était trompé. Elle avait eu le résultat avant même d'avoir la copie. Là, enfin, à un moment donné, ça colle pas. Enfin, pour moi, il y a quelque chose qui colle pas. Bon, parce que c'est ma fille, ça arrivait plein de fois, mais c'est parce que c'est un exemple très très concret là. Et qui arrive certainement plein de fois. Et là, la continuité éducative, sur cette utilisation d'outils informatiques, pour moi, là, on se trompe. Que ce soit une mémoire, que ça puisse être un outil entre professionnels, ok. De communication directe, je ne crois pas.
Donc, à mon tour de prendre la parole au sujet des changements et des innovations qu'on essaye de mettre en place pour adapter nos prises en charge. Donc, je citerai d'abord une loi qui me paraît importante au niveau de la protection de l'enfance. C'est la loi du 14 mars 2016, qui vient compléter celle du 5 mars 2017 et qui met en avant la stabilité dans le parcours de l'enfant et qui parle également d'adaptabilité de son statut sur le long terme. Donc on est vraiment au niveau législatif sur l'idée d'éviter les ruptures pour le jeune que l'on va accompagner. Donc pour cela, il y a des outils qui se créent. On essaye de faire en sorte que ces outils puissent suivre le parcours de l'enfant au-delà de l'institution dans laquelle il est accueilli. Donc j'en citerai deux rapidement, comme le projet pour l'enfant et la famille. Donc c'est un projet où va être notifié les objectifs de travail à plus ou moins long terme avec l'enfant, avec les parents. Il est signé également par les professionnels et par l'institution, donc la direction enfance-famille. Donc on est bien sur un engagement réciproque et ce PPEF, ce document, il est transmis lorsque nous on accueille des jeunes, il nous est transmis par les équipes qui ont déjà accompagné le jeune et quand le jeune quitte l'institution, on transmet également ce document-là. Donc dans l'idée de montrer aux professionnels qui vont assurer le relais ce qui a déjà été fait et éviter à l'enfant d'être dans une répétition de choses. Et c'est très souvent que les adolescents nous mettent en avant le fait d'avoir un petit peu marre de reprendre systématiquement leur histoire dès le départ, avec le sentiment de toujours devoir se répéter et que leur situation au final n'avance pas comme ils le souhaiteraient. On a également le dossier santé qui est actuellement mis en place. Donc c'est un dossier sur lequel est notifié tous les rendez-vous médicaux, tous les professionnels de la santé qui interviennent auprès de l'enfant, qui sera également transmis lors du départ du jeune. Il partira avec son dossier santé pour que les professionnels puissent avoir aussi un regard sur tout ce qui a déjà été fait et qui n'est plus à faire. J'avais envie aussi de questionner les informations transmises lors justement des passations entre professionnels. Comment on les transmet? À qui on les transmet? Le jeune doit-il ou non être présent lors des transmissions des informations? C'est vrai que donc là, j'interroge en fait le secret professionnel et le secret partagé. Donc le secret professionnel, pour citer donc au niveau du code pénal, c'est l'article 226-13. Du code pénal qui interdit à certains professionnels de communiquer les informations à des personnes qui ne sont pas du même domaine professionnel. Mais nous, on a cette possibilité au niveau justement de la loi du 5 mars que je notifiais tout à l'heure, la loi du 5 mars 2007, qui nous dit qu'en tant que professionnels du social, nous sommes amenés à pouvoir partager certaines informations dans un souci de transmission et de continuité de l'accompagnement entre services. Donc je ne vous cache pas qu'en tant que professionnel, on est toujours très frileux de qu'est-ce qui doit être transmis, qu'est-ce qu'on a le droit de transmettre. Et en même temps, ça nous amène parfois justement des situations un peu problématiques, comme la transmission d'un décès d'un parent, par exemple, effectivement, quand on accompagne le jeune, pour reprendre la situation que Cécile évoquait tout à l'heure. Donc, s'autoriser à donner des informations à des partenaires qui sont dans le même cadre d'intervention, mais aussi à des professionnels avec lesquels on va travailler autour de la situation, on sent vraiment beaucoup de réticence. Par exemple, quand on rencontre les écoles, quand on accompagne un jeune et qu'on va rencontrer une professionnelle de l'école, on sent très rapidement dans les échanges qu'il y a une rétention, il y a une crainte. Est-ce que je peux ou pas dire cette information-là ? Parce que derrière, on sait très bien que ça va engendrer toute une machine et que ça peut être inquiétant et problématique pour l'enseignant qui, lui, est confronté quotidiennement aux parents, à l'enfant qui est dans sa classe. Donc ça, il faut réussir à dépasser cette crainte tout en restant dans le cadre qui nous est autorisé. Et puis je ferais juste peut-être un petit passage au niveau des informations transmises sur l'idée que lorsqu'on se transmet des informations entre partenaires, il arrive très souvent qu'on favorise certaines informations par rapport à d'autres. Or, pour le jeune et en sa présence, c'est là-dessus aussi que je voulais insister, que c'est important que le jeune, il entende les informations qu'on transmet. C'est important de parler effectivement des difficultés qu'on peut avoir repérées pour permettre aux professionnels qui vont assurer le relais d'avoir une petite idée de comment se comporte le jeune sur, par exemple, des mises en danger. Est-ce que c'est un jeune qui fait régulièrement des fugues ? Est-ce que c'est un jeune qui se scarifie régulièrement, qui a des problèmes au niveau de la santé ? Mais j'ai envie de dire aussi que dans ces moments-là, et c'est très important, et c'est en cela que le jeune va pouvoir voir cette continuité de parcours comme, non pas comme une rupture, mais justement comme une poursuite, c'est de mettre en valeur aussi toutes les compétences qu'on a pu observer chez ce jeune. Donc, des compétences qui peuvent être de tout ordre. Un jeune qui sait cuisiner, qui va travailler l'autonomie, c'est vraiment mettre en valeur son potentiel au niveau de ce travail-là. Mais aussi un jeune qui aime particulièrement la musique et qui a des compétences dans ce domaine-là. Enfin voilà, ça paraît des petites choses anecdotiques et qui pourtant, au niveau des transmissions et au niveau du relais des professionnels, va permettre aux jeunes de se sentir reconnus par l'équipe qui va assurer l'accompagnement par la suite. Donc voilà, on est toujours dans un domaine du placement et de l'accompagnement du jeune dans sa globalité. Mais le parent, qu'en est-il du parent ? Comment lui est-il accompagné ? Comment se saisit-il de cet accompagnement ? Donc on en arrive à des fois des situations un peu grotesques avec des enfants qui font le circuit de la pouponnière en foyer d'enfants, en foyer d'adolescents, qui arrivent en centre maternel et qui de nouveau se font placer les enfants. Et des moments où on a vraiment un sentiment d'échec au niveau des professionnels par rapport au travail qu'on doit mener auprès d'eux. Donc je fais très vite parce que j'ai compris que j'avais plus beaucoup de temps pour vous parler du placement éducatif à domicile. Donc ça, c'est un peu, c'est pas une innovation, c'est nouveau et ça fait partie des choses qu'on essaye de mettre en place, la créativité des professionnels. C'est de se dire que justement, si la famille n'est pas accompagnée comme il se doit, pourquoi on n'envisage pas de travailler et avec l'enfant et avec sa famille. Et donc on a vu fleurir dans les différentes institutions des placements éducatifs à domicile, donc où l'enfant est réellement placé, mais il est placé à la maison. Donc c'est une notion qui est un peu compliquée pour les parents à comprendre, puisque l'enfant restant à leur domicile, souvent ils ont tendance à penser que c'est un accompagnement, mais qu'en rien ce n'est un placement. Donc c'est innovateur, ça permet d'accompagner effectivement le parent dans sa relation, dans la relation à son enfant. Je vous cache pas que c'est souvent la dernière chance, c'est-à-dire que quand on met en place un PEAD, c'est souvent pour dire aux parents, écoutez, nous, on a repéré que c'était compliqué, on vous donne cette chance de pouvoir être accompagné par des professionnels au sein même de votre domicile, mais saisissez bien la perche, parce que la finalité de cette intervention, engendre régulièrement des séparations puisque les parents ne se sont pas saisis de l'accompagnement. Pour autant, j'ai envie de dire que ce dispositif et cette création, elle vaut quand même le coup d'être essayée.
Merci.
Merci.
Je me tourne vers les organisatrices parce qu'on a, on a commencé un petit peu en retard. Peut-être qu'on peut prendre quand même une ou deux questions, réactions. Les autres questions ou remarques pourront être adressées lors de la pause qui suit. Et on reprend en revanche parce qu'on a pris pas mal de retard. 15 minutes de pause.